Chapitre 15. Alors que le miroir me renvoie l'image d'une femme épuisée et tendue, je me dis que j'aurais dû accepter les invitations à dîner de Sam ou de ma mère. Cela m'aurait peut-être évité de tourner en rond dans mon appartement, puis dans mon lit, à imaginer le déroulement de cette journée. Cela dit, un visage blafard et cerné, c'est au fond le cadet de mes soucis. Ma crainte est surtout de ne pas réussir à tenir debout, de m'écrouler. Et ce, dans tous les sens du terme. Hier encore, alors que je descendais du train, j'ai reçu un appel de mon avocate, que je ne connais que par téléphone, m'invitant à venir la rencontrer afin de préparer l'audience. Mais une fois encore, j'ai décliné la proposition. Je ne veux pas être préparée. L'idée même m'est insupportable. Je vois derrière le mot comme une forme d'acceptation. Je refuse d'accepter. J'ai toutes les peines du monde à enfiler mon pantalon et à en attacher les trois boutons. Le tremblement persistant de ma main droite m'oblige même à renoncer à la queue de cheval initialement prévue. Je voudrais que tout ceci ne soit qu'un mauvais rêve. Je voudrais que ma petite fille surgisse soudain derrière moi en chantant, me racontant combien le concert de Louane était extraordinaire, super, méga, génial. Me suppliant d'y retourner avec elle parce qu'il paraît qu'il reste encore des places pour les dates suivantes. Si je me retourne, je suis presque certaine que je pourrais voir son visage éclairé de son grand sourire aux deux dents manquantes. Mais je ne me retourne pas. Parce que quelle que soit ma sensation, je ne pourrais pas prendre ma petite fille dans mes bras et la serrer fort. Parce que Meryl est morte. Parce que c'est lui qui l'a tué. Luttant contre les larmes, j'attrape mon sac à main, mes clés, et quitte cet endroit dans lequel je viens de décider que je ne reviendrai pas. L'édifice est imposant. Une vingtaine de larges marches blanches, un parvis en dalles parfaitement aligné, six immenses colonnes et au-dessus une inscription « Palais de justice ». Alors que je me tiens en bas des marches, cherchant l'énergie pour avancer et pénétrer dans le bâtiment, une main se pose sur mon épaule. « Bonjour, ma chérie. Ça me fait plaisir de te voir. » Je tourne la tête vers ma mère, et c'est lui que je vois aussitôt. Mon frère Xavier. Elle lui ressemble tant. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai réduit nos rencontres à leur portion congrue. Parce que chaque fois que je la regarde, c'est inexorablement vers lui que mon esprit s'envole. Elle n'y est pour rien, je le sais. Mais cette ressemblance ravive en permanence sa perte et pour l'instant, je ne parviens pas à surmonter cette première impression. Bonjour, maman. Mon malaise est perceptible autant que sa peine. Soudain, je réalise que ce ne sont pas deux personnes que j'ai perdues, mais quasiment trois, tant la distance est grande entre ma mère et moi aujourd'hui. Certes, nous n'avions pas une relation fusionnelle comme celle que je pouvais avoir avec Xavier, mais nous nous entendions plutôt bien. J'ai l'impression que cela remonte à une éternité. « Comment te sens-tu » demande-t-elle d'une voix déjà tremblante. « Je me sens... Tout ça, c'est... Beaucoup d'émotions qui se bousculent. » De la peine, de la colère, beaucoup de colère. Et de la lassitude. Je suis fatiguée, maman. Tellement fatiguée. Par toutes ces nuits sans sommeil, par toutes ces nuits sans ma petite fille. Oh, Roxane. Elle me prend dans ses bras. Instinctivement, je ferme les yeux et Xavier s'éloigne. Il n'y a plus que l'odeur de maman. Celle du parfum fleuri qu'elle porte depuis toujours. Et c'est aussitôt une digue qui cède, libérant un torrent de larmes. « Je ne sais pas si je vais y arriver, maman. Je ne sais pas, je... Je sais, ma chérie, je sais. Aucune mère ne devrait vivre la perte de son enfant, aucune. Si je le pouvais, je te jure que je donnerais tout pour qu'on te rende ta petite fille. Même si je devais rester dans le deuil de Xavier. » Mais tu ne peux pas t'arrêter de vivre. Tu as encore tellement d'années devant toi, tellement de choses à construire ou à reconstruire. C'est pour ça que ta présence ici est si importante. Il n'y a rien devant moi. Rien que des années vides. Des tas et des tas d'années vides. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour le dire. À celui qui en est responsable. Rien d'autre. Je me libère de son étreinte et puise dans toute ma colère pour gravir une à une les marches qui mènent vers le tribunal. Il règne à l'intérieur du bâtiment un silence qui me saisit autant que la froideur des lieux. La salle des pas perdus porte bien son nom. De nombreuses personnes sont là à arpenter les dizaines de mètres de ce gigantesque hall. Mon regard ne se pose pas sur ceux qui ont revêtu leur robe noire d'avocat. Ils scrutent les autres. Et si c'était lui ? Me demandais-je en dévisageant un grand type barbu en costume sombre. Ou alors lui, là, avec ses petites lunettes et ses cheveux frisés. Madame Galland ?
Oui ?
Maître Ruellan. Se présente une femme en me tendant la main. Les audiences correctionnelles vont bientôt débuter. Notre affaire devrait être appelée dans les premières. Le langage juridique de mon avocate me heurte violemment. Pas la moindre émotion, pas la moindre compassion. La mort de ma fille et celle de mon frère sont réduites à une simple affaire, parmi d'autres. Dans cette salle d'audience, des personnes poursuivies pour excès de vitesse ou conduites sans permis vont côtoyer celui qui va devoir rendre des comptes pour la mort de deux personnes. Le juge va passer d'un dossier à l'autre sans sourciller, puis il rentrera chez lui avec le sentiment du devoir accompli. Alors que pour nous, il en ira tout autrement. Le bruit des portes qui s'ouvrent interrompt le cours de mes pensées ainsi que les allées et venues dans le hall. Comme dans un ballet lent et silencieux, chacun se dirige vers la salle d'audience, le visage fermé et crispé. C'est peut-être lui, pensais-je en suivant du regard un homme de taille moyenne portant une chemise noire. Ma mère me fait signe, et je me résous à venir m'asseoir près d'elle. En ce lieu, on ne met pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Nous sommes tous mélangés, coupables comme victimes, attendant qu'on nous appelle. Une sonnerie désagréable et stridente retentit. Toute l'assistance se lève pour saluer l'arrivée de trois juges qui tiennent chacun dans les bras une pile de dossiers. Ils portent cette robe qui m'a toujours impressionnée, et je ne peux m'empêcher de me demander si elle pèse lourd sur leurs épaules. Aussi lourd que la responsabilité de décider d'une culpabilité ou non. Les magistrats s'assoient et nous les imitons. Une nouvelle fois, je suis frappée par le silence qui, curieusement, au lieu de m'apaiser comme je l'avais pensé, accélère mes battements cardiaques. L'un des juges, sans doute le chef des deux autres, appelle un dossier. Une personne se lève, suivie par son avocat, et se place devant la barre.
Monsieur Verroy, vous êtes poursuivi pour avoir à Neuville-Saint-Pierre, le 17 mars 2019 à 20h30, et depuis temps non couvert par la prescription, été contrôlé positif au cannabis alors que vous étiez au volant d'un véhicule terrestre à moteur.
Parce que ce n'est pas mon histoire, très vite mon esprit décroche. J'entends les sons mais ne capte plus les mots. À côté de moi, ma mère se tient parfaitement droite, les mains posées sur ses genoux. Je profite du fait qu'elle a le visage entièrement tourné vers ce qui est en train de se dérouler devant nous pour l'examiner. Cela fait plusieurs mois que nous ne nous sommes pas vus et je ne peux que constater à quel point elle aussi est marquée par le chagrin. Elle a dû perdre une dizaine de kilos. Elle qui n'avait pas de problème de poids flotte désormais dans ce tailleur que je lui ai vu porter des dizaines de fois. Elle semble avoir pris 10 ans depuis ma dernière visite. J'imagine qu'elle doit en penser autant de moi. Je ne me souviens plus de la dernière fois où je me suis maquillée, et de nombreux cheveux blancs strient à présent de manière bien visible ma chevelure châtaine. À plusieurs reprises, je me suis dit qu'il fallait que j'aille chez le coiffeur, sans en trouver le courage. Pendant près de 2 heures, les dossiers passent du dessus au côté de la pile. Des personnes se lèvent, d'autres se rassoient. Le juge expose des faits, raconte des histoires auxquelles je ne m'intéresse pas. Quand soudain,
j'appelle Madame Stéphane Jamin.
Aussitôt, ma mère attrape ma main et la serre à m'en faire mal. Je tourne la tête de tous les côtés. C'est bien une femme de taille moyenne, aux cheveux courts qui se lève et se dirige à son tour vers la barre d'une démarche mal assurée. Comment ça ? Une femme. Ce n'est pas possible, il doit y avoir une erreur, ça ne peut pas être elle qui... Sans doute vient-elle à la place de son mari, oui c'est ça. Ça ne peut être que ça. Il doit être malade et elle le représente. La main de ma mère n'a pas lâché la mienne. Pourquoi ne semble-t-elle pas surprise, elle ?
Madame Jamin, vous êtes poursuivie pour avoir à Aubin-sur-Seine, le 19 mars 2019 et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en roulant à une vitesse excessive et en ne marquant pas l'arrêt à un panneau stop, involontairement causé la mort de deux personnes, Xavier Galland et Meryl Galland.
Non ! Hurlai-je en me levant brusquement.
Non ! Non, ce n'est pas possible ! Ça ne peut pas ! Ça ne peut pas !
Bredouillai-je. Tout vacille autour de moi. Je cherche à fixer mon regard sur quelqu'un ou quelque chose, sans succès. Les sons me parviennent, assourdis. Les injonctions du juge à me rasseoir, les paroles de ma mère, tout se mélange en un brouhaha peu à peu inaudible. J'ai beaucoup de mal à respirer. J'ai la sensation de suffoquer. Il fait chaud, trop chaud. Et ces murs qui tournent de plus en plus vite, j'ai mal au cœur, je ne me sens pas bien, il faut que je sorte. Et puis plus rien. Roxane ? Roxane ? « Ma chérie, comment te sens-tu ? » La voix inquiète et lointaine de ma mère me parvient à peine. « Ouvre les yeux, Roxane. » Au prix d'un effort qui me paraît surhumain, je parviens à soulever mes paupières. Ma mère, dont les contours du visage sont encore flous, se tient au-dessus de moi. J'ai mal à la tête, et tandis que les images se stabilisent peu à peu, je suis prise d'une violente nausée. J'ai à peine le temps de tourner la tête vers la droite avant de vomir. C'est normal, ne t'inquiète pas. Les médecins nous ont prévenus que tu serais sans doute malade. Ils ont dû te poser une perfusion. Où suis-je ? Demandai-je d'une voix pâteuse, incommodée par l'acidité de la bile et la rugosité du drap qui me recouvre. Tu es à l'hôpital, Roxane. Tu as fait un malaise au tribunal, tu as perdu connaissance pendant plusieurs minutes. Il a fallu appeler les pompiers. J'ai eu si peur. Le tribunal. Le procès. Cette femme. Je me redresse d'un coup dans mon lit, beaucoup trop vite pour ne pas déclencher un vertige et me faire de nouveau vomir. Calme-toi, ma chérie. D'ici une ou deux heures, tu te sentiras mieux. Le procès. Il faut... Ne vous inquiétez pas, Madame Galland. M'indique mon avocate que je n'avais pas vue et qui se trouve avec ma mère dans la chambre. J'ai réussi à obtenir que le juge examine le dossier en fin d'audience. Cela vous laisse quelques heures pour vous remettre et vous évite surtout un renvoi de plusieurs semaines. Ce n'est pas habituel, mais je crois que le juge, même s'il ne le montre pas parce qu'il n'en a pas le droit, est touché par votre affaire.
Cette femme. Le conducteur de la voiture, c'était une femme ?
Oui, répond-elle surprise, semble-t-il, par mon interrogation. Vous ne le saviez pas ? Pourtant, c'était noté dans le dossier.
Roxane, tu pleures,
s'inquiète ma mère.
Tu as entendu ce que vient de dire Maître Ruellan. Le juge a accepté de ne pas renvoyer le dossier. Ne t'inquiète pas, tout sera terminé ce soir.
Je me tourne de l'autre côté pour ne plus leur faire face. Comment leur expliquer ?
Stéphane. Je n'ai jamais voulu lire les documents. N'ai jamais voulu connaître les détails de l'accident qui a coûté la vie à ma fille ainsi qu'à mon frère. Stéphane. Je ne me suis pas posé de questions. De toute façon, seul un homme pouvait être à l'origine de l'accident. Stéphane. Elle se prénomme Stéphane. C'est finalement une femme qui est responsable de tout ça. Une femme, peut-être même une mère comme moi, enfin, comme je l'étais. Je suis fatiguée. Je ferme les yeux et, sans doute aidée par le goutte à goutte qui coule dans mes veines, finis par m'assoupir.